journal Loïc Barrière. Plusieurs personnes blessées sur l'esplanade des mosquées lors d'incidents entre des Palestiniens et la police israélienne. En France, la campagne électorale s'arrête à minuit. Le second tour de l'élection présidentielle opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen dimanche. La Fédération des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles appelle à faire barrage à l'extrême droite et à voter pour Emmanuel Macron dimanche. Nous écouterons son porte-parole et recteur de l'Institut El Razali à Marseille, Aboubakr Diop. Les syndicats étudiants appellent eux aussi à empêcher Marine Le Pen d'être élue dimanche. Entretien avec le président de la FAGE, Paul Maillot. Enfin, l'Observatoire Copernicus affirme que l'Europe a connu l'été le plus chaud de son histoire l'an dernier. De nouveaux incidents sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem en ce troisième vendredi du Ramadan. Des jeunes Palestiniens ont jeté des pierres sur les policiers israéliens qui sont entrés sur le site. Plusieurs personnes ont été blessées. La situation est tendue. Ces derniers jours, plus de 200 personnes ont été blessées, en majorité des Palestiniens, sur l'esplanade des mosquées. Par ailleurs, la semaine a été marquée par des tirs de roquettes vers Israël et des frappes israéliennes contre la bande de Gaza. En France, la campagne électorale s'arrête ce soir à minuit. Le second tour opposera Marine Le Pen à Emmanuel Macron dimanche. Hier, le président candidat s'est rendu à Saint-Denis, ville où les électeurs ont voté en majorité pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Aujourd'hui, il se rend à Figeac, dans le Lot. Marine Le Pen, elle, était jeudi soir à Arras pour son dernier meeting de campagne. Elle a appelé à un front anti-Macron. À l'étranger, un nouvel appel à voter pour le président français, un appel signé Lula, l'ancien président brésilien qui avait soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Selon lui, Emmanuel Macron incarne le mieux les valeurs démocratiques et humanistes. L'ancien président du Brésil appelle à vaincre l'extrême droite et son message de haine et de préjugés. Comme les organisations juives, les fédérations protestantes et d'autres organisations musulmanes, la FAYAKA, la Fédération des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, appelle à faire barrage à l'extrême droite et à voter pour Emmanuel Macron dimanche. On écoute le porte-parole de cette fédération, recteur de l'Institut El Razali à Marseille, Aboubakr Diop.
Je crois que, en tant que citoyen, au moment, il appartient aussi de faire le choix d'une société à laquelle nous croyons, c'est-à-dire une société égalitaire, une société juste, une société fraternelle. Et nous pensons naturellement que cette vision-là que nous avons de cette société française, elle est beaucoup mieux, ou en tout cas beaucoup plus, représentée par un des candidats, pour ne pas le nommer, Emmanuel Macron, à nos yeux, plutôt que Madame Le Pen, qui, je pense que, du fait de l'héritage familial et du fait aussi de l'héritage politique, la droite extrême, hein, je fais bien la part entre la droite républicaine et la droite extrême, je pense que cette droite-là a des idées contraires à l'idéal humaniste de la France, cet idéal-là qui est quand même fondateur du socle républicain. Et donc, ces idées-là, nous ne pouvions pas les accepter, parce que ni ici en France, ni en Europe, ni dans le reste du monde, ces idées n'ont apporté que de la haine et de la division un peu partout, et particulièrement en France, qui est déjà quand même assez fragilisée par des discours xénophobes. Nous ne pouvions pas rester inertes. En tout cas, il fallait prendre part à ce débat. Et notre choix est porté sur la candidature de M. Emmanuel Macron.
Il s'agit pour vous de faire barrage à l'extrême droite, ce n'est pas un vote d'adhésion.
À certains égards, oui, parce que quand même, il y a des manquements. Mais, comme on le dit souvent, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et là, même si le vote n'est pas un vote d'adhésion massive, il y a quand même une volonté, en tout cas, de permettre au président de la République de pouvoir peut-être corriger sur la marge un certain nombre de choses dont lui-même a pris conscience, hein, et il l'a exprimé, il l'a dit, dont lui-même a pris conscience que, oui, c'est vrai qu'il y avait des manques sur un certain nombre de points. Et donc, je pense que s'il est élu, c'est ce que nous souhaitons, en tout cas, nous lui accordons notre confiance, il est élu, je pense qu'il aura pendant 5 ans le temps justement de corriger ses erreurs et essayer en tout cas d'arrimer la France dans ses valeurs fondamentales et singulières qu'on lui connaît, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait la liberté, mais la liberté à la fois religieuse, la liberté de conscience, mais qu'il y ait aussi l'égalité. On a parlé du droit de sol qu'on veut supprimer, mais je pense qu'il y va de l'égalité des gens qui sont nés par le hasard ici, et ben si le droit leur permet à travers ce hasard-là d'exister en tant que Français, cette égalité-là des citoyens, il faut y tenir. Et en même temps aussi, la dimension de la fraternité, je crois que quelles que soient les origines que nous avons, et la France, justement, est très particulière par rapport à ça, et ben chacun a sa place dans cette République. Et nous devons faire en sorte que la Constitution qui nous lie tous puisse être un peu le grand de nos libertés fondamentales et puisse nous permettre de vivre. Et je pense que nous pensons que le président Macron, en tout cas, serait la personne qui pourrait nous accorder cette garantie-là.
Vous êtes porte-parole de la FAIACA, mais également recteur de l'Institut Al-Razali à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous faire part des missions de l'Institut Al-Razali de Marseille?
L'Institut, c'est une annexe de Al-Razali de Paris, de la Grande Mosquée de Paris, et je salue au passage aussi son recteur, Shamsuddin Hafid, un homme clairvoyant qui a permis en tout cas l'ouverture d'une annexe ici à Marseille, dès l'instant où le président Macron avait souhaité que les imams qui se forment, que les imams ne viennent plus de l'étranger, mais que la France, en tout cas les institutions islamiques en France, fassent en sorte qu'ils puissent former les cadres religieux ici. Et c'est à partir de cela que la FAIACA et la Grande Mosquée de Paris ont signé une convention permettant l'ouverture de l'annexe de l'institut ici, qui forme les imams et les morshidettes. Et nous sommes à la deuxième année, avec un certain nombre d'étudiants qui viennent un peu de musulmans et même des convertis qui sont parmi nous et qui viennent de différentes villes de la région et qui sont motivés par les sciences coraniques, parfois peut-être pour des raisons personnelles, parfois aussi pour effectivement devenir un cadre religieux dans les institutions, dans les mosquées demain dès qu'ils auront fini la formation. Ça se passe assez bien. Les professeurs qui enseignent sont aussi des gens qui viennent de différentes nationalités, mais qui partagent la même passion et la même foi de l'islam, et qui nous enseignent un islam sunni, un islam du juste milieu, un islam où la fraternité est le maître mot.
Le recteur de l'Institut Al-Razali à Marseille, Aboubakr Diop, il est porte-parole de la FAIACA, la Fédération des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Il répondait à François-Xavier de Calonne. 21 avril 2002, 21 avril 2022, cela faisait hier 20 ans, l'extrême droite accédait pour la première fois durant la Ve République au second tour d'une élection présidentielle avec la qualification de Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Plusieurs organisations, dont la FAGE, le principal syndicat étudiant, SOS Racisme et l'UEJF, se sont rassemblées hier soir devant le Panthéon à Paris. Ces associations appellent à voter contre Marine Le Pen dimanche. On écoute le président de la FAGE, Paul Maillot.
C'est un appel clair à se mobiliser pour le 24 avril, parce que nous sommes contre tout ce que représente aujourd'hui ce parti, contre l'obscurantisme, contre le repli, contre l'atteinte à nos droits fondamentaux, et c'est également parce qu'on est pour tout ce qui va à l'encontre de ça, parce que nous sommes pour l'éducation, pour la solidarité, pour la liberté et la démocratie qu'on appelle ce 24 avril à faire barrage au Rassemblement national.
Et vous estimez que le renvoi dos à dos des deux candidats représente un danger aujourd'hui ?
C'est un danger, et ce rassemblement, et en tout cas cet appel, ne valent ni ne vaudront blanc-seing pour le futur président de la République. On le sait toutes et tous que ces 5 dernières années n'ont pas été à la hauteur. Que ce soit sur des enjeux de lutte contre la pauvreté, la précarité, que ce soit sur les questions de climat, de considération des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, mais on saura le rappeler ça autant de fois que nécessaire. Et c'est parce que réellement on ne doit pas laisser la flamme de la haine devenir un brasier qu'il faut qu'on puisse se mobiliser le 24 avril.
Vous ressentez de la part des étudiants une réelle volonté de mobilisation aujourd'hui lorsque vous discutez avec eux?
Tout à fait. Les étudiantes et étudiants, malgré les années qui ont passé, toujours cette flamme qui continue d'exister et qui a une portée qui est forte et des valeurs qui le sont tout autant. C'est des choses qui sont conscientisées et qui, oui, effectivement, touchent particulièrement les étudiantes, les étudiants, les jeunes de manière plus large et se mobiliseront encore 20 ans plus tard face à la haine.
Et ce qui s'est déroulé ces derniers jours à la Sorbonne avec des étudiants qui refusaient de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce n'est pas emblématique aujourd'hui de la situation actuelle, selon vous ?
Non, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est emblématique. Et effectivement, on trouve quelques étudiantes et étudiants qui, comme je le disais plus tôt, ont subi effectivement les politiques des 5 dernières années, mais qui sauront, en tout cas je l'espère, faire le bon choix ce dimanche, parce que c'est impossible de comparer aujourd'hui un programme qui est celui du président et candidat actuel à celui de l'extrême droite et de tout ce qu'il représente.
Vous étiez tout jeune le 21 avril 2002. Comment cela vous est raconté aujourd'hui ?
Ça nous l'est effectivement raconté comme étant le gros électrochoc qui était vécu à l'époque, que de voir effectivement l'extrême droite arriver au second tour de l'élection présidentielle, qui est la plus haute fonction de notre République, et où aujourd'hui effectivement on a peut-être un peu moins ce déclic. Et ça c'est du fait, comme je le disais plus tôt, de différents facteurs. Ça va être effectivement lié au faute des politiques rétrogrades qui n'ont fait qu'asseoir le lit de ces idées au fil des années, également des médias, d'avoir offert une scène peut-être trop importante à cette extrême droite qui n'a fait que banaliser les discours discriminants au fil des années.
Vous estimez aujourd'hui que ce discours a été banalisé par les médias ? C'est un reproche que vous leur faites aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Banalisé ou en tout cas surreprésenté. Ce n'est pas que de leur fait, bien entendu, mais on a eu une concentration de passage médiatique de la haine qui effectivement a eu au fil des années tendance à banaliser celle-ci.
Et alors que le résultat reste incertain pour dimanche prochain, il faudra tirer, selon vous, des leçons de cette banalisation que vous dénoncez ?
Oui, tout à fait. Plus jamais on doit se retrouver avec un entre-deux-tours qui se fait de cette manière-là, ou en tout cas ne serait-ce qu'avec la possibilité pour des partis qui sont aussi nauséabond, enfin pour les termes, qui ont une politique raciste, antisémite, xénophobe, tous ces choses-là, effectivement, c'est des choses contre lesquelles il faudra qu'on puisse davantage et activement lutter pour la suite, pour que plus jamais on se retrouve avec l'extrême droite qui arrive au second tour.
Le président de la FAGE, Paul Maillot, au micro de François-Xavier de Calonne. La justice française émet un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, et poursuivi notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment. Carlos Ghosn réside à Beyrouth depuis qu'il a fui le Japon en 2019. Les autorités espagnoles ont interpellé un Portugais recherché par Interpol en lien avec l'explosion d'août 2020 dans le port de Beyrouth. Il est soupçonné d'avoir introduit des éléments explosifs au Liban. La guerre en Ukraine, pas d'évacuation de civils ce vendredi. Il est impossible d'organiser un couloir, avertit le gouvernement, qui estime que la situation est dangereuse sur les routes. À noter que la France envoie 28 tonnes d'aide médicale d'urgence à l'Ukraine. Un mot du Covid-19. Le Portugal a décidé de mettre fin à l'obligation du port du masque en intérieur, y compris en milieu scolaire. Mais cette mesure continuera d'être appliquée dans les transports en commun, dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite. Et en France, le nombre de nouveaux cas de Covid est en forte baisse. 104 007 nouvelles contaminations recensées hier, soit une baisse de 24% par rapport à la semaine dernière. 25 018 personnes sont actuellement enregistrées en France à cause du Covid-19 et le pays a enregistré 160 décès supplémentaires liés à cette maladie. Enfin, en 2021, l'Europe a connu son été le plus chaud. L'observatoire Copernicus sur le changement climatique alerte sur les effets dramatiques du réchauffement sur le continent. Plusieurs départements français sont déjà frappés par la sécheresse. Jamais on n'avait vu des sols aussi secs aussi tôt dans la saison. À 19h, pluriel avec la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 18h pour le journal. Excellente journée à tous.